RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Secrétaire, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. Indonésie-Japon intensifie la coopération maritime et halieutique. Le Japon veut augmenter ses investissements en Indonésie. Luhut a dit que l'Indonésie avait réussi à négocier l'huile de palme en Europe. ASAP 2018 est prête à lancer pour renforcer la force alimentaire de l'Asie. Les élections générales de l'Indonésie 2019 sont les plus compliquées au monde. Et enfin, le Japon aide l'Indonésie à prévenir le terrorisme aux Jeux asiatiques de 2018. Voici le journal complet. Lors de la réunion du 6e dialogue stratégique, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Thomas Sudi, et son homologue japonais, Taro Kono, ont convenu à nouveau l'intensification de la coopération maritime et halieutique entre les deux pays. Lors de sa conférence de presse lundi le 25 juin à Jakarta, le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono, a souligné que l'intensification de cette coopération entre l'Indonésie et le Japon est importante et très stratégique pour les deux pays avec le concept de développement maritime possédé. Les deux ministres des Affaires étrangères se sont également mis d'accord la coopération des centres intégrés de la marine et de la pêche et du marché aux poissons dans les îles périphériques de l'Indonésie.
We will increase our maritime cooperation. This is very
Nous allons intensifier notre coopération maritime. Ceci est très significatif pour les stratégies des deux pays, à savoir la stratégie libre et ouverte Indo-Pacifique du Japon et de l'Indonésie comme axe maritime mondial. Nous venons de terminer la signature de l'échange de notes sur un programme de développement du secteur de la pêche dans les îles périphériques. Le Japon continuera à mettre en œuvre le développement des îles périphériques comme convenu en septembre l'année dernière. Les deux ministres des Affaires étrangères ont convenu de la synergie entre le concept de la stratégie Indo-Pacifique libre et ouverte du Japon et l'Indonésie, lancée par l'Indonésie à travers des mécanismes régionaux comme l'ASEAN et le sommet de l'Asie de l'Est dans la région de l'océan Pacifique et de l'Association des États riverains de l'océan Indien, IORA, dans la région du cercle de l'océan Indien. Tandis que la coopération entre les centres intégrés de la pêche et de la mer le marché de poissons, le gouvernement japonais prévoit de construire 6 centres de pêche dans 6 îles indonésiennes, à savoir Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang et Somlaki. Le Japon, en tant que partenaire stratégique indonésien, a déployé des efforts pour accroître sa valeur d'investissement indonésien. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Thomas Marsudi, après une rencontre bilatérale avec son homologue japonais, Taro Kono à Jakarta, lundi, a déclaré que l'un de ses efforts était de faire l'Indonésie une base pour les produits manufacturés japonais. les produits destinés pour les tiers-marchés, y compris les pays membres de l'ASEAN.
On investment, Japan investment in Indonesia reached $5 billion in 2017.
En ce qui concerne l'investissement, les investissements japonais en Indonésie ont atteint $5 milliards américains en 2017, le deuxième grand investisseur en Indonésie en 2017. Par conséquent, notre discussion d'aujourd'hui a donc souligné comment renforcer cette dynamique positive. Travailler pour faire de l'Indonésie comme base de production des produits manufacturés japonais pour le troisième marché, y compris l'ASEAN. La ministre indonésienne Retno Marsudi a ajouté que pour réaliser ce souhait, la négociation de l'accord de partenariat économique indo-japonais doit être résolue immédiatement pour une coopération mutuellement bénéfique pour les deux pays. Le Japon est le deuxième plus grand investisseur en Indonésie avec des investissements en 2017 d'une valeur de $5 milliards américains. La valeur totale des échanges entre les deux pays en 2017 a augmenté de 13,54% par rapport à 2016 ou de $33,03 milliards américains. Le ministre de coordination pour le maritime, Luhut Binsar Panjaitan, a affirmé que l'Indonésie avait réussi à négocier sur le plan de l'interdiction des importations d'huile de palme brute ou CPO à l'Union européenne qui a finalement suspendu jusqu'en 2030. Luhut Panjaitan évalue que la suspension de l'interdiction des importations de CPO par l'Union européenne jusqu'en 2030 ne devrait pas être un problème pour l'Indonésie, parce que cette interdiction ne s'appliquera qu'aux CPO dont les terres qui ne sont pas respectueuses de l'environnement. Puis, l'Indonésie ne sera pas la perte. Luhut a déclaré lundi à Jakarta que le nombre de CPO qui est planté sur des terres inamicales en Indonésie n'est pas grand. Bien que la demande était tout à fait réussie, Luhut a admis d'effectuer des négociations suivantes en ce qui concerne les critères de CPO qui devraient et ne devraient pas être exportés vers l'Union européenne. Il a ajouté que l'Indonésie enverrait une équipe pour entrer dans l'équipe de l'Union européenne pour discuter des critères. Il a même convoqué l'ambassadeur de l'Union européenne Indonésie et le Brunei Darussalam, Vincent Guérin, pour le réaliser. L'événement du Forum asiatique pour l'agriculture et l'alimentation, ou ASAF, organisé par l'Association de l'harmonie des paysans indonésiens, HKTI, est prêt à se tenir du 28 au 30 juin 2018 à Jakarta Convention Center. ASAF 2018 a pour thème transformer le défi en opportunité, innovation agricole et sécurité alimentaire. Il y a 5 programmes de principales activités, à savoir la conférence sur l'alimentation asiatique, l'exposition agricole asiatique, le forum d'affaires, le festival de l'alimentation et le prix de l'innovation agricole. La conférence internationale sur l'agriculture et la sécurité alimentaire présente un certain nombre de sources compétentes du pays et d'un certain nombre de pays asiatiques. Muldoko, président de HKTI, et Stefan Rungard, représentant de la FAO pour l'Indonésie et le Timor-Leste, seront les principaux orateurs. Dans sa déclaration, Muldoko a déclaré que HKTI a tenu le Forum asiatique sur l'agriculture et l'alimentation en 2018 pour renforcer la force alimentaire et agricole dans les pays asiatiques. Le vice-président Yusuf Kala a déclaré que la fête démocratique de l'Indonésie en 2019 deviendrait les élections les plus élaborées du monde, car les gens sont confrontés à 5 types d'élections. Les gens choisiront 5 niveaux, le parlement régional, provincial, le parlement régional au niveau du district, la chambre des représentants régionaux et le président et vice-président. Comme l'a déclaré Yusuf Kala lors d'une conférence générale de la clôture du programme régulier des 57e et 58e programmes d'éducation régulière de l'Institut national de la force de défense 2018 à Jakarta, lundi. Yusuf Kala a déclaré des 5 types d'élections générales en même temps, il y a 400 facteurs pour calculer le vote dans l'élection de 2019, il y aura 5 bulletins de vote à voter. Avec le nombre de bulletins de vote et de participants aux élections parlementaires, aux élections présidentielles, Kala estime que le dépouillement des votes prendra également beaucoup de temps. Le vice-président a également rappelé que le public était plus préoccupé par les résultats du comptage rapide. Selon lui, le public accordera plus d'attention au décompte des voix de l'élection présidentielle qu'aux élections législatives. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono, a déclaré que le gouvernement japonais avait convenu d'une coopération en matière de coopération antiterroriste avec l'Indonésie. Une forme de cette coopération est la fourniture d'une assistance sous la forme d'un système de sécurité biométrique, sous la forme d'une détection de visages à installer au stade principal Gelora Bung Karno à Jakarta. L'installation du système de sécurité constitue une forme de sécurité accrue avant les Jeux asiatiques de la mi-août à septembre de cette année. Ce message a été transmis par le ministre des Affaires étrangères, Taro Kono, après la 6e réunion du dialogue stratégique entre l'Indonésie et le Japon à Jakarta, lundi, le 25 juin.
Japan will support activities to counter violent extremism. Japan will provide assistance.
Le Japon soutiendra des activités visant à contrer l'extrémisme violent. Le Japon fournira également une assistance dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. L'année dernière, le Japon a fourni un système de sécurité biométrique au stade Gelora Bung Karno pour les Jeux asiatiques 2018. Le ministre des Affaires étrangères, Kono, a ajouté qu'en plus de fournir une assistance au système de sécurité biométrique, le Japon et l'Indonésie continuent également de coopérer pour offrir une formation aux autres pays qui utilisent le système de sécurité. Le système de sécurité biométrique développé par le Japon est un système de sécurité avancé capable de détecter le visage et l'identité de dizaines à des centaines de personnes en peu de temps. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre « Restez vigilants en terrorisme lors de l'élection générale du chef régional ». Mercredi, le 27 juin 2018, 11 provinces, 115 régions et 39 villes tiendront les élections du chef régional simultané ou pilkada dans toute l'Indonésie. Selon la Commission des élections générales, la préparation des élections à ce jour a été plutôt bonne. Le président de la commission électorale, Arif Budiman, a même prétendu qu'il n'y avait pas eu de rapport concernant des choses qui dérangent le plan de la mise en de ce grand événement jusqu'il y a deux jours. Pour préparer des élections régulières, sûres et neutres, le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Wiranto, a présidé une réunion de coordination assisté par le président de la Commission électorale générale, le président du Conseil de surveillance des élections, le commandant de TNI et le chef de la police. Bien que tous les préparatifs pour la mise en œuvre, y compris la sécurité, aient été faits, les gens et le gouvernement ne devraient pas être négligents. Toutes les parties doivent rester vigilantes. Les parties qui auraient craint de commettre des actes de terreur devraient être surveillées en permanence. L'endo est la supervision de ceux qui ne sont pas satisfaits de la décision de condamnation à mort Aman Abdurrahman, chef de Jemaah Ansharut Daulah ou JAD, affilié à ISIS, doit également être resserré. Ne pas leur donner un espace pour cibler un certain nombre de régions qui tiendront des élections régionales, surtout les zones où les gens sont constitués de différentes ethnies ou races. Il y a quelques jours, le détachement spécial 88 antiterroriste avait arrêté plusieurs personnes soupçonnées d'avoir des liens avec JAD Bogor et étaient soupçonnées d'avoir commis une terreur lors des élections régionales à Java West. Le détachement spécial antiterroriste a été contraint de prendre des mesures fermes et mesurables parce que dans le processus d'embuscade, les terroristes soupçonnés ont essayé de se battre. Ce cas montre que les menaces terroristes pendant les élections existent toujours. Par conséquent, la coopération entre la communauté et les forces de sécurité doit être améliorée dans l'intérêt de la mise en œuvre de l'élection du chef régional sans heurts, sécuritaire et honnête. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons avec la signature de la Charte des Nations Unies à San Francisco le 26 juin 1945. La Charte de l'Organisation des Nations Unies, ONU, est une constitution de l'ONU. La Charte a été signée à San Francisco le 26 juin 1945 par 50 membres de l'ONU. 50 pays qui ont signé la Charte à San Francisco le 26 juin 1945 étaient les membres d'origine. Elle a été ratifiée par les 5 membres fondateurs, à savoir la République de Chine, la France, l'Union soviétique, le Royaume-Uni et les États-Unis. La Charte des Nations Unies est un traité constituant et tous les signataires sont liés par son contenu. En outre, la Charte également indique explicitement que la Charte des Nations Unies à l'autorité a dépassé de tous les autres accords. L'autre information est sur l'ouverture de la Tour nationale du Canada le 26 juin 1976. La Tour nationale du Canada, qui a été construite en 1973, est la plus haute tour du monde. Sa hauteur atteint 553 mètres. La tour est située dans la ville de Toronto, Ontario, le Canada, et considérée comme une icône de cette ville. La Tour nationale du Canada a été visitée par plus de 2 millions de personnes chaque année. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Pramudya Anantatur a reçu le grand prix du prix culturel d'Asie Fukuoka le 26 juin 2000. Pramudya Anantatur est un auteur prolifique dans l'histoire de la littérature indonésienne. Il a produit plus de 50 œuvres et traduit en plus de 41 langues étrangères. Le prix de la culture d'Asie Fukuoka est un prix décerné pour les réalisations dans le domaine de la création et de la préservation de la culture asiatique. Ce prix était décerné depuis 1990 par le gouvernement de la ville de Fukuoka au Japon. C'est retour, c'est l'histoire aujourd'hui pour ce soir. Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel de titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord Mon Indonésie.
Indonésiaku, Mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie ayant pour le titre « Ne contredisez pas l'islam et le nationalisme ». L'islam et le nationalisme sont souvent contredits par les groupes. Le vice-président Yusuf Kala a demandé au public de ne pas faire de distinction entre l'islam et l'esprit de nationalisme, y compris de contester entre les deux. Cela a été dit par Yusuf Kala lors de son discours à l'Université Muslim Indonesia, UMI, Makassar, Sulawesi du Sud, samedi le 23 juin 2018. Selon lui, faire la distance et de contester entre l'islam et l'esprit de nationalisme est très défavorable à la vie en tant que musulman ainsi que l'histoire indonésienne. Yusuf Kalla, qui a reçu le titre de docteur honoris causa, a déclaré que le principe de l'islam joue un rôle très important dans l'établissement de l'esprit de la nation indonésienne. Basé sur l'histoire et la dynamique des musulmans dans ce pays, l'islam est devenu le facteur unificateur de la tribu avec diverses coutumes et traditions. Dans son discours intitulé « Actualisation des principes islamiques et renforcement de l'esprit de nationalité », le vice-président a expliqué les preuves historiques de la contribution du processus de diffusion de l'islam à l'unification de l'archipel. Selon lui, l'islam encourage le renforcement de la solidarité entre les musulmans ou ukhuwah islamiyah entre divers groupes ethniques. Cette action est ensuite développée dans une solidarité entre les citoyens du pays ou ukhuwah watania lorsque les Hollandais ont colonisé l'Indonésie. Yusuf Kalla a affirmé que l'islam était l'enseignement le plus élevé et le plus noble de la vie de tous les musulmans. Par conséquent, il doit continuer à placer l'islam dans sa hauteur et sa gloire et ne pas le réduire à la réalité et aux phénomènes empirico-sociologiques tels que le nationalisme. Pendant ce temps, l'esprit de nationalisme est un produit humain. Le vice-président a déclaré que l'esprit de nationalisme a été formé en raison de divers facteurs tels que l'histoire, le développement et la dynamique de la société, la culture et la religion de la société indonésienne dans sa longue histoire. Selon lui, tous ces facteurs se combinent pour jouer un rôle dans la formation de l'esprit nationaliste. En particulier, l'esprit de la nationalité sur le principe islamique joue également un rôle très important dans la formation de l'esprit de nationalité de l'Indonésie. Yusuf Kalla a souligné que l'État unitaire de la République d'Indonésie, basé sur Pancasila, est l'actualisation du nationalisme religieux dans ses cinq principes. Serviteur, c'était mon Indonésie, de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs, voici donc le rappel de titre de l'actualité.
Indonésie-Japon intensifie la coopération maritime et halieutique. Le Japon veut augmenter ses investissements en Indonésie. Luhut a dit que l'Indonésie avait réussi à négocier l'huile de palme en Europe. ASAP 2018 est prête à lancer pour renforcer la force alimentaire de l'Asie. Les élections générales de l'Indonésie 2019 sont les plus compliquées au monde. Et enfin, le Japon aide l'Indonésie à prévenir le terrorisme aux Jeux asiatiques de 2018.
C'était le rappel des titres de l'actualité pour ce soir.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Bukalah matamu, kuatkan hatimu. Berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est un moment pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel introduisant la poutre Kayun. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, La Voix d'Indonésie. Selon le raisin de Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, Banyuwangi maintiendra toujours la tradition de ses citoyens comme une forme de maintien de la sagesse locale. Par conséquent, un certain nombre d'attractions touristiques culturelles ont eu lieu à Banyuwangi pendant les vacances de Lebaran. Le deuxième jour de Lebaran, les résidents du village Kemiren ont tenu la tradition Barong Ider Bumi. Le villageois d'Olesari dans le district Glaga ont tenu seblang Olesari pendant 7 jours consécutifs à partir du 3e jour de Syawal. Seblang est une expression rituelle de gratitude pour la sécurité du village sous la forme d'une jeune fille qui a dansé dans une condition d'être possédée par les esprits ancestraux. Outre de tradition Barong Ider Bumi et Seblang Olesari, la communauté de Banyuwangi lance aussi la tradition Puter Kayun le 24 juin dernier. Puter Kayun est une tradition des résidents de Boyolangu, le district Giri, qui se tient habituellement tous les 10 jours de Syawal ou 10 jours après l'Eid al-Fitr. Dans cette tradition, les résidents locaux ont montré la carriole ornementale vers la place Watu Dodol pour tenir le salou comme une expression de gratitude pour la subsistance abondante. En outre, cette tradition est une expression de gratitude et de joie après un mois de jeûne. Serjuritok, cette tradition est une forme de napak tilas de l'aîné du village Boyolangu nommé Kibuyut Jakso. Il est un moyen méritoire d'ouvrir une route qui relie le côté nord de Banyuwangi avec d'autres régions. L'ouverture de cette route se fait par le démantèlement ou ndodol des pierres qui sont près de la mer. C'est pourquoi la région a finalement appelé Watu Dodol ou Pierre des Sargés. La cérémonie Puter Kayun à la place Watu Dodol est une forme de gratitude et de joie. Dans la langue locale, Puter signifie faire des cercles ou entourer, alors que Kayun signifie s'amuser. Avec le lancement de la tradition Puter Kayun, les résidents locaux suivaient la tradition du nettoyage de village et de divers arts traditionnels tels que Kuntulan, Barong, Gandrung et Hadra. Commençant par la lecture de la prière, le carriole des résidents locaux se déplace également vers Watu Dodol qui se trouve environ 15 km du centre de la ville de Banyuwangi. Maintenant, Depuis que seulement quelques personnes ont leur carriole, les habitants de Boyolangou utilisent des pick-up pour parader vers Watu Dodol. Arrivés à la place Watu Dodol, des milliers de résidents ont envahi la place et y ont passé toute la journée. Puis ils ont organisé un repas ensemble le long de la place. Après avoir mangé ensemble, certaines personnes se baignent aussi sur la plage pour jeter de la merde et semer des fleurs dans la mer. L'arrosage des fleurs accompagné d'une prière conjointe est également fait pour commémorer et prier pour les ancêtres qui sont morts dans la construction de la route. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèles avec nous. Au revoir.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix d'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Kakakku berkacamata ou en français ma sœur porte des lunettes. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre Kakakku berkacamata ou en langue française ma sœur porte des lunettes. Dans le salon de la maison de Joko, Tony regarde l'album photo de mariage de Joko et Dinda. Dans l'album, il y a une photo de la famille de Dinda.
Dinda, siapa anak yang berbaju merah ini?
Dia keponakanku, anak kakak pertamaku. Kakak pertamaku yang berkacamata.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire liant au thème d'aujourd'hui, à savoir kakakku berkacamata ou en langue française, ma sœur porte des lunettes. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Siapa anak yang berbaju merah ini? Siapa anak yang berbaju merah ini? En français. Qui est ce gamin de chemise rouge? Dia keponakanku. Dia keponakanku. En français, c'est mon neveu. Anak kakak pertamaku. Anak kakak pertamaku. En français, le fils de ma première sœur. Kakak pertamaku yang berkacamata. Kakak pertamaku yang berkacamata. En français, ma première sœur est celle avec des lunettes. Lors de décrire sur la famille dans la photo, il est généralement mentionné la relation avec la famille, comme le frère, la sœur et le neveu, et les caractéristiques de l'habillement physique ou d'autres caractéristiques particulières. Si on dit berkumis ou avoir une moustache, cela veut dire « punya kumis » ou « possède une moustache ». Maintenant, considérons la phrase suivante. Siapa anak yang berbaju merah ini? Le mot « berbaju » dérive du mot « baju » plus le préfixe « ber »,« berbaju » signifie « memakai baju »,« memakai baju » en français « porte des vêtements ». C'est similaire avec « berkacamata » yang artinya « memakai kacamata. Memakai kacamata. En français, porter des lunettes. considérer l'exemple suivant. Kakak pertamaku berjenggot dan berkacamata. Kakak pertamaku berjenggot dan berkacamata. Signifie mon premier frère barbu et porte des lunettes. Dans la langue de conversation, par la situation formelle, la déclaration peut être changée en kakak pertamaku punya jenggot dan pakai kacamata ou mon premier frère a la barbe et porte des lunettes. Le préfixe ber signifiant avoir et porter est plus souvent utilisé dans la langue écrite ou dans la langue orale formelle. Le premier enfant est nommé anak sulung. Cependant, le dernier enfant est nommé anak bungsu. Essayez d'utiliser la terme lorsque vous décrivez votre famille. Serviteur, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de conversation encore une fois.
Dinda, siapa anak yang berbaju merah ini?
Dia keponakanku, anak kakak pertamaku. Kakak pertamaku yang berkacamata.
Après avoir écouté la conversation ayant pour titre « Kakakku berkacamata », nous vous donnerons une pratique qui est bien sûr liée au mot existant après. L'exercice cette fois est de décrire votre famille. Exemple, saya mempunyai satu orang kakak perempuan dan satu orang kakak laki-laki. Kakak perempuan saya berkacamata, kakak laki-laki saya berkumis. Kakak perempuan saya mempunyai seorang anak perempuan. Dia suka memakai baju merah. Anak kakak laki-laki saya dua orang. Mereka semua memakai kacamata. Sekarang, cette rubrique apprendre l'indonésien pour ce soir, que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. En pratique, envoyez votre enregistrement vocal en indonésien à notre adresse email avoy@voynews.id. Il y aura un cadeau sous la forme d'un colis attrayant pour le gagnant. Le gagnant sera annoncé en novembre 2018. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chérie Rita, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la voix d'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine musical. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des musiques indonésiennes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz et vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons un chanteur Victor Hutabarat. Voici sa première chanson intitulée Cinta Hampa. Bonne écoute.
Betapa sakitnya hati kecewa. karena cinta. Bila kau lihat pemuda yang lebih gaya, cintamu pun segera berpindah kepadanya. Tapi biarlah kau cari yang lain, kan kau buat sebagai korban palsu hampa. Nanti di suatu masa kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta.
Cerita bune dekut la sangsong ang titul cinta hampa kompoze par A Khalik. Sa sangsong khakong ta la fosete de lamo kom de lo dang le fe de taro. Lo dang le fe de taro se fas le mangrang verse kang le fe ong baskule. De mem, lamo represente dang le paro de sangsong etang namo ki se perd fas le mang kang kel kang plubo ke lamoro vieng. La musique elle-même est mélancolique, typique de la musique malaise. Victor Hutabarat n'était pas le premier à populariser cette chanson. La chanson intitulée Cinta Hampa a été popularisée par Deloitte, le groupe de musique indonésien légendaire des années 70. Puis par Victor Hutabarat, cette chanson est reprise avec une version qui n'est pas très différente en utilisant l'arrangement de la musique malaise. La chanson Cinta Hampa a été popularisée dans l'album Senandung Melayu qui a été lancé en 2005. Avant de continuer à explorer d'autres chansons malaises de Victor Hutabarat, écoutons la chanson suivante intitulée Fatwa Punjaga. Bon écoute.
Yang
La chanson intitulée Fatma Pujangga que vous venez d'entendre est l'une des chansons qui est dans l'album Senandung Melayu de Victor Hutabarat. Cette chanson a été créée ainsi que popularisée par Saïd Effendi dans les années 1960. Saïd Effendi a écrit les paroles de cette chanson basées sur son expérience personnelle. On dit que Saïd Effendi reçoit souvent beaucoup de lettres de ses fans et il a toujours répondu humblement ces lettres. Parmi les nombreuses lettres reçues, il y a une lettre qui exprime son cœur, exprimant un intérêt pour la figure de ce chanteur. La lettre est pleine de beaux mots et poétique, ainsi que d'exprimer l'amour à Saïd Effendi. Ce qui est intéressant, l'expéditeur ne s'attendait pas à une réponse à son amour. Saïd Effendi se sent nerveux, curieux et en même temps impressionné par l'écrivain qui exprime un amour sincère sans réponse. Dans l'anxiété et l'admiration, Saïd Effendi également crée la chanson intitulée Fatwa Pujangga. Bon serviteur, avant de terminer notre programme, voici la dernière chanson de Saïd Effendi intitulée Di Ambang Sore. Bonne écoute et à demain.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 9525 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.